des concerts à bolo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat.
Débat. Débat sur Radio Esperanza. Débat. Débat.
Débat sur Radio Esperanza aujourd'hui, samedi, on est le 6 août, deuxième jour du festival, le troisième jour de radio déjà, et les débats à 19h30, un peu plus, eh bien ce sont les débats du village, vu qu'il y a des débats sur le village au possible, organisé par le CNCD. Aujourd'hui, un des débats, eh bien c'était entre autres avec Antoine Deltour, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et moi j'appelais ça un peu tous les leaks. Parce que normalement, il y avait aussi David Leloup qui devait nous rejoindre, qui va peut-être nous rejoindre encore. Alors, quel était le thème du débat aujourd'hui dans cet espace ?
C'était un thème assez général sur les lanceurs d'alerte en général et la fiscalité, la justice fiscale.
Et alors, vous êtes un lanceur d'alerte. Est-ce qu'on peut vous appeler comme ça ? Est-ce que vous considérez comme ça ?
Après, moi, je ne revendique pas particulièrement cette étiquette, mais bon, si on regarde ce que j'ai fait, ça correspond plus ou moins à ce qu'on attribue habituellement aux lanceurs d'alerte. Et maintenant, en plus, le tribunal luxembourgeois a tranché le débat en disant Antoine Deltour et Raphaël Allais sont des lanceurs d'alerte.
Et donc, ce sont des méchants. Puisqu'ils se retrouvent sur le banc des accusés, du coup, on se dit ce sont des méchants.
Des méchants pour certains. Après, même le tribunal du Luxembourg considère que ce qu'on a fait était utile, en tout cas a servi l'intérêt général et a permis des avancées en faveur de la justice fiscale. Mais effectivement, on représente une menace pour certains intérêts et c'est pour ça qu'on dérange. Ouais.
Et alors, mais qu'est-ce que vous avez fait ?
Un copier-coller il y a 6 ans. Donc j'étais auditeur dans un cabinet d'audit au Luxembourg, PwC. Et dans le cadre de mes activités d'audit, je m'intéressais à mon travail, c'était de vérifier les comptes des entreprises. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert des pratiques fiscales qui sont vraiment contraires à toute notion de justice fiscale. Puisque certaines multinationales, par le biais de montages extrêmement complexes, des schémas d'optimisation fiscale, malheureusement bien souvent légaux, parviennent à atteindre des taux effectifs d'imposition extrêmement faibles, de l'ordre de 1, 2 ou 3%, pendant que les contribuables, donc les PME ou les citoyens, vous et moi, payons bien plus. Et donc c'est ça qui m'a véritablement indigné.
Et donc du coup, vous découvrez ça ? C'était quelque chose quand même qui était connu quelque part déjà, parce que, voilà, on parle toujours du Luxembourg comme un paradis fiscal, c'est pas pour rien.
Alors effectivement, je suis pas complètement naïf, hein, donc je savais très bien, comme la plupart des gens, qu'une partie de l'attractivité, une partie seulement de l'attractivité du Luxembourg repose sur sa politique fiscale plutôt accommodante. Je suis pas allé non plus au Luxembourg avec des idées reçues, et voilà, c'est après deux ans d'audit sur place que j'ai découvert, et c'est une réelle découverte, c'est l'ampleur de ces mécanismes-là, puisque de très très nombreuses multinationales sont concernées, et ce dont je ne me doutais pas, c'est la radicalité de ces schémas de planification fiscale, puisque voilà, les multinationales, par certains montages, parviennent à ne quasiment payer aucun impôt.
Ce qui est quand même, oui, ce qui est du coup assez scandaleux. Alors qu'est-ce que, dans ces multinationales, hein, on peut citer, il y avait Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, c'est pas les plus petites quoi. Hein.
Oui, après, moi je suis pas tellement à l'aise avec ce qu'on appelle name and shame. En tout cas, moi c'était pas mon intention initiale, parce que voilà, quand j'ai transmis donc les documents, les fameux tax rulings, ces accords fiscaux qui détaillent tous ces montages fiscaux et leur approbation par l'administration fiscale luxembourgeoise, moi j'avais l'intention de stimuler un débat public sur une problématique assez vaste, un problème systémique, l'optimisation fiscale agressive via ces tax rulings. Mais après, je pense que ça n'a aucun sens de nommer en particulier quelques entreprises, et mon intention, c'était de préserver l'anonymat de ces entreprises-là, Alors effectivement, c'est un peu raté a posteriori, mais
oui, parce qu'en fait,
parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, c'est partout, il n'y a pas de raison de particulièrement pointer du doigt une entreprise, sachant que la plupart des multinationales de la planète ont recours à ce type de montage, et si elles le font pas, quelque part. Compte tenu de la logique de marché, la logique concurrentielle, c'est presque une erreur de gestion de payer ses impôts.
Mais puisque tout le monde le fait, on continue. Enfin, voilà, autant le faire soi-même aussi.
Ça légitime complètement le système. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec la réponse qui est faite sur la place financière luxembourgeoise, c'est de dire le problème, c'est les politiques qui décident de règles qui permettent aux entreprises de payer aucun impôt. Après, on peut espérer que les entreprises, du jour au lendemain, deviennent morales et payent leurs impôts par esprit citoyen. Moi, j'y crois pas un seul instant. Après, si certains y croient, tant mieux. Mais ce qu'il faudrait plutôt, à mon avis, c'est vraiment changer le cadre réglementaire pour que ce soit plus possible à l'avenir d'échapper à ce point à l'impôt.
Mais une fois que vous avez rendu public, en fait, vous n'avez pas rendu public vous-même, comment ça s'est passé avec ces données, en fait ?
Donc j'ai copié des milliers de pages, des centaines d'accords fiscaux. C'était la veille de mon dernier jour de travail. J'avais démissionné et je ne savais pas vraiment quoi faire de ces informations que je savais très sensibles. Et je savais que sur la question du tax ruling au Luxembourg, il y avait vraiment un problème. Après, voilà, c'est des pratiques légales, donc je ne savais vraiment pas du tout comment manier ça. Et donc, j'ai rien fait pendant plusieurs semaines. J'ai pris le temps de la réflexion. J'ai essayé de prendre certains contacts avec des ONG, mais ce n'est pas évident parce que voilà, c'est des sujets délicats et je savais que c'était potentiellement dangereux pour moi. Et plusieurs mois après ça, un journaliste a cherché à entrer en relation avec moi, Édouard Perrin, donc qui faisait une enquête pour Cache Investigation sur France 2. Et donc on s'est rencontrés et je lui ai confié l'ensemble des documents.
Et voilà, et à partir de là.
Et à partir de là, mon rôle s'est arrêté là. Et bon, voilà. Mais ce qui s'est passé par la suite, donc il y a eu ce numéro de Cache Investigation. Ensuite, il y a Raphaël Allais qui. D'après ses mots, il a mieux compris, parce que non, en fait, son activité quotidienne, c'était de manier ses tax rulings, et donc il a vraiment compris la réalité de son travail. Et donc ça lui a mis la puce à l'oreille. Enfin, il a eu une indignation citoyenne, je pense, à peu près de la même nature que la mienne. Et donc il a souhaité aussi collaborer avec Édouard Perrin, c'est lui qui a initié le contact. Et ensuite, l'ensemble des documents ont atterri entre les mains de l'ICIJ, donc le Consortium International de Journalisme d'Investigation, qui est maintenant bien connu pour avoir révélé l'affaire Panama Papers. Et donc ce consortium a publié simultanément le même jour, en novembre 2014, l'ensemble des documents ainsi que des dizaines d'enquêtes à travers le monde à partir de ces fameux tax rulings émis par l'administration luxembourgeoise. Et donc là, ça a été un vent d'indignation générale.
Ce qu'on appelait le LuxLeaks.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le LuxLeaks, effectivement.
Donc Tollé, oui, réaction d'indignation au niveau mondial. On se rend compte à ce moment-là avec des faits, finalement, avec des preuves de ce qui se passe à ce niveau-là. Et alors là, il y a les choses qui commencent à changer quand même. Il y a des mesures qui sont prises et il y a des mesures sont prises et commencent à être mises en application sur des mesures anti-dumping fiscal, par exemple.
Voilà, alors malheureusement, il y a une telle inertie dans nos systèmes démocratiques qu'il y a besoin de scandales pour faire avancer les dossiers. Et alors, c'est pas des propos que je m'attribue, hein, je ne fais que citer d'autres personnes, mais apparemment, l'affaire LuxLeaks, d'après les spécialistes là, à Bruxelles qui travaillent là-dessus, considère que ce scandale-là a plus fait avancer la question de la fiscalité en Europe que 10 ou 15 ans de travail parlementaire, quoi. Donc ça a quand même, voilà, ça a fait un peu bouger les choses. Donc sans rentrer trop dans le détail, il y a eu une commission d'enquête, enfin une commission spéciale qui a enquêté sur ces sujets-là au Parlement européen. Qui a travaillé pendant 2 fois 6 mois, qui a rendu 2 rapports adoptés à une très large majorité, et notamment qui recommande de mieux protéger les lanceurs d'alerte. Et il y a eu une nouvelle disposition de la Commission européenne pour introduire un échange automatique des tax rulings. Donc quelque part, alors on peut rentrer dans le détail, hein, je ne sais pas, mais jusque-là, l'échange était spontané. Donc on a changé un mot, maintenant cet échange est automatique, donc ce n'est pas une révolution, on a changé un mot dans un texte. Bon, je simplifie un peu, mais c'est plus ou moins ça dans les faits. Alors, ça va pas changer du jour au lendemain la manière dont les multinationales sont taxées. Par contre, c'est quand même une étape importante. En tout cas, d'après l'OCDE, ça introduit une pression sur les pairs, puisque voilà, si une multinationale par un ruling luxembourgeois siphonne des recettes fiscales de ses voisins, des États membres de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, les Royaumes-Unis ou autres, ces États membres maintenant auront connaissance de ce montage-là, et donc il y a des chances qu'ils exercent une pression sur le Luxembourg pour un peu accroître la contrainte, enfin en tout cas accorder des avantages un peu moins scandaleux.
Mais du coup, c'est quand même une victoire pour vous. Alors, du coup, on se dit, j'ai bien fait de le faire.
Tout à fait. Moi, je pense que ces répercussions concrètes prouvent l'utilité des risques que j'ai pris. Et ça légitime a posteriori complètement ma démarche. Hein, parce que quelque part, l'attitude du Parlement européen face à cette masse de documents, quand il décide d'enquêter en profondeur sur ces mécanismes-là, c'est un peu les mêmes questionnements que j'ai eu à l'époque. Donc s'ils sont partagés par le Parlement européen, je me dis, quelque part, j'avais raison de trouver qu'il y a un problème là-dedans. Maintenant, effectivement, c'est extrêmement paradoxal, puisque ces avancées concrètes et cette utilité manifeste de cette alerte me valent quand même d'être poursuivi par la justice luxembourgeoise. J'ai été inculpé, il y a eu un procès au printemps, fin avril, début mai, et j'ai été condamné fin juin à un an de prison avec sursis et 1500 euros d'amende.
C'est assez déroutant. C'est déroutant en fait de se retrouver dans cette position-là, puisque d'un côté on fait avancer les choses, donc on reconnaît quand même l'intérêt de votre... De votre actif, du fait d'avoir mis ça sur la place publique. Et d'un autre côté, vous vous faites néanmoins inculper. Alors qu'est-ce qui fait qu'on se fait inculper? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est interdit de donner des infos? Est-ce que vous aviez, par exemple, dans la société où vous travaillez, est-ce qu'il y avait un contrat de confidentialité? Mais qu'est-ce qui fait et qui vous a mis devant ce tribunal?
Alors donc c'est mon ancien employeur PwC qui a porté plainte contre moi, donc ce qui a donné suite à ces poursuites judiciaires. Et effectivement, si on regarde très formellement le droit luxembourgeois, bien entendu, tout auditeur est soumis à un secret professionnel, puisque pour vérifier la comptabilité des entreprises, il y a besoin d'accéder à des informations qui n'ont pas vocation à être sur la place publique. Après, on peut considérer que dans ce cadre-là, dans ce cas spécifique-là de LuxLeaks, il y avait un intérêt général qui était supérieur à cette obligation-là.
Et donc
peut-être que sans le savoir, ce que vous trouvez déroutant, en fait, c'est le jugement en première instance du tribunal du Luxembourg qui reconnaît l'intérêt de la démarche, mais qui décide quand même de me condamner, ainsi que Raphaël Allais.
Oui, ça me déroute complètement. Mais bon.
Mais c'est pour ça qu'on va faire appel. Donc Raphaël Allais l'a annoncé tout de suite après le prononcé, moi aussi. Et du coup, on est d'accord au moins sur un truc avec le procureur luxembourgeois, c'est que lui aussi souhaite faire appel. Donc voilà, on n'est pas content de ce jugement. Peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais du coup, rendez-vous en appel parce qu'il y a une question peut-être un peu de principe de dire l'intérêt général supérieur et tout ça. Mais ça, c'est de la politique. C'est pas du droit, mais il y a des arguments de droit qui permettraient de m'acquitter. Alors moi je suis pas juriste, mais mes avocats connaissent les textes, et normalement les juges devraient les connaître aussi, et il y a une convention européenne des droits de l'homme qui a protégé déjà certains lanceurs d'alerte au nom de la liberté d'expression, et il y a une jurisprudence qui édicte 5 critères pour lesquels on a le droit effectivement de violer certains secrets quand il y a des vraies raisons derrière, et je pense que c'est le cas. Alors le juge en première instance a pensé que c'était pas le cas, mais on pense avoir des arguments à faire valoir dans la suite de la procédure.
Alors pourquoi ne pas avoir gardé l'anonymat?
Alors
ça
moi
vous aurait évité quand même pas mal de peut-être.
Alors moi j'ai souhaité garder l'anonymat. Donc c'est-à-dire qu'au départ j'étais une source d'un journaliste et il a mené son enquête sans que j'apparaisse à l'écran et sans même que j'intervienne dans son enquête. Après, là, c'est sortir de l'anonymat, c'est une décision que j'ai prise sur conseil de mes avocats, puisque à partir du moment où j'étais poursuivi par la justice et dans une procédure dans laquelle je risquais quand même jusqu'à 5 à 10 ans de prison et plus d'un million d'euros d'amende. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà, je suis en danger et sortir de l'anonymat, ça permet de mobiliser certains soutiens. Et à nouveau, a posteriori, je pense qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de raison de questionner cette décision, puisque, voilà, par exemple, j'ai été auditionné par la fameuse commission parlementaire au Parlement européen. C'est un signe de reconnaissance quand même de ce que j'ai fait, et ça n'aurait jamais eu lieu si j'étais resté dans l'anonymat.
Alors, vous connaissiez apparemment donc ces risques quand même en lançant cette alerte. Qu'est-ce qui fait alors que vous avez quand même agit de la sorte, parce que voilà, il faut
alors
j'allais dire un sacré courage.
Alors je connaissais pas les risques en détail, je me suis pas renseigné sur les textes précisément qui encadraient ce que j'étais en train de faire, et probablement que si j'avais connu voilà l'amplitude de ces risques-là, j'aurais peut-être pas pris cette décision-là. Sur le moment, c'est vrai que du coup, là, maintenant, on m'attribue un courage que finalement, j'ai peut-être pas. Non, mais il y a une part de mensonge aussi. Enfin, on raconte des histoires, voilà. Enfin, il y a du storytelling derrière tout ça. Enfin, ça plaît aux médias, ça plaît aux soutiens de raconter une histoire autour d'un personnage pour après faire avancer d'autres idées. Moi, tant que c'est des idées que je partage, je suis bien volontiers. Je participe au mouvement, mais après, il y a, voilà, effectivement, moi, bien entendu, j'ai jamais émis l'intention d'être un jour un prisonnier de conscience, par exemple. mais bon, je pense que cette histoire m'enverra jamais en prison, et en tout cas, pour l'instant, voilà, j'ai eu que du sursis. Mais voilà, c'est.
Mais parce que voilà, moi, on peut aussi relier votre histoire à celle de Rudolf Elmer. Donc, c'est le héros du film Lix in Paradise de David Leloup. Lui aussi, donc, a lancé un pavé dans la mare. On va arrêter de lancer des alertes. C'est carrément, c'est des pavés dans la mare que vous lancez, au péril aussi lui, carrément, de sa santé. Enfin, ça va, il est toujours vivant. Mais voilà, on le voit dans le film, c'est quand même quelque chose de prenant, de dangereux, parce que voilà, lui aussi, il a fait de la prison, lui. J'ai vu le film il y a quelques mois, donc lui,
il a fait environ 6 mois de prison avant tout jugement, hein. C'était une détention provisoire. Et bon, alors, David Leloup n'est pas là, donc je fais la promotion de son film. Je vous invite vraiment à le regarder. Je l'ai regardé hier, et c'est vrai que ça raconte très très bien l'histoire de Rudolf Elmer. Et effectivement, je vais pas parler au nom de Rudolf Elmer, mais alors c'est quelqu'un de très courageux, mais je pense que, pour faire le parallèle avec mon cas, je pense qu'avant une question de courage, c'est aussi une question de conscience citoyenne. C'est qu'il y a un moment où on est témoin de choses, on participe à des choses qu'on veut plus assumer en conscience, quoi. Et je pense que c'est le cas d'énormément de monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir accès à des milliers de pages confidentielles pour devenir lanceur d'alerte. On a tous des compromis avec l'éthique. Et alors, c'est quelque chose qui est sorti pendant le procès. Il y avait un code de bonne conduite chez PwC et une des questions que les salariés devaient se poser, c'est est-ce que vous dormez bien la nuit, est-ce que vous assumez concrètement ce que vous faites, quoi. Et quelque part, je pense que ces questionnements tout à fait légitimes conduisent dans certains cas à alerter l'opinion ou les autorités sur ce qui se passe, parce que voilà, il y a des choses qui méritent d'être changées, quoi.
Alors, si on dit que les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont un peu les héros des temps modernes, on voit dès qu'on a annoncé Antoine Deltour à Esperanza, ben voilà, c'est quand même vous l'avez vu ici en arrivant aussi, hein, est-ce qu'on peut prendre en photo, enfin on voit qu'il y a un côté qui vous étonne, en fait, par rapport à ça.
Ouais, mais dont j'essaye de me détacher aussi, parce que déjà, ça peut rendre très très con, parce que beaucoup de gens prennent la grosse tête, et donc je me méfie beaucoup de ça, et voilà. Et puis en plus, je pense que c'est... Enfin voilà, c'est... Moi, c'est un... C'est un rôle que j'accepte d'incarner, mais en même temps, ça me paraît tout à fait déraisonnable, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, concrètement, ce que j'ai fait, c'est un copier-coller il y a 6 ans. J'ai transmis ces documents à un journaliste et mon rôle s'est arrêté là.
Et puis, vous vous retrouvez à Esperanza.
Voilà, je me retrouve à Esperanza, donc tant mieux, c'est un festival très sympathique. Mais en même temps, voilà, tout ce qui s'est passé par la suite, c'est hors de mon contrôle. Il y a tout un contexte qui conduit à ça et qui dépend pas de moi. Donc après, c'est cette notion d'héroïsme. Mais tout ça, bon, c'est
hors de contrôle finalement. Enfin, voilà, c'est le fait de dire les choses dans une société où on essaie justement d'en cacher beaucoup. Bah, du coup, voilà, ça donne. Et puis, on personnifie aussi. Du coup, on met un nom sur une action.
Les médias ont besoin de ça. Mais par exemple, dans l'affaire UBS, donc il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte. Au départ, il y a Bradley Birkenfeld aux États-Unis, donc qui a fait aussi de la prison et au final qui est devenu millionnaire, parce qu'aux États-Unis on rémunère les lanceurs d'alerte. Enfin, c'est pas ce que je souhaite, mais voilà, c'est une parenthèse. Et y en a eu d'autres après en France. Donc il y a Stéphanie Gibaud, mais il y a aussi les lanceurs d'alerte de l'ombre. Par exemple, Nicolas Forissier, personne ne connaît son nom, mais il a joué un rôle au moins aussi important que celui de Stéphanie Gibaud. Et c'est pour ça que, il y a quelque part. S'il y a besoin de sortir de l'ombre, c'est que les mécanismes qui devraient protéger les lanceurs d'alerte n'ont pas fonctionné ou sont inexistants. Et une alerte réussie, elle devrait permettre de préserver l'anonymat du salarié pour tout simplement préserver son employabilité. Alors moi, j'ai fait le choix de me reconvertir, donc je suis c'est une question un peu différente, mais globalement, sur la plupart des cas des lanceurs d'alerte qui sortent de l'ombre, il y a un énorme problème, c'est impossible de retrouver du travail dans le même secteur.
Mais j'imagine.
Et on le comprend. Et du coup... c'est impossible de quantifier le nombre d'alertes qui fonctionnent et qui passent sous les radars, mais il faut espérer que ces quelques lanceurs d'alerte dont on parle parce que ils subissent des conséquences graves comme l'exil ou autre. Et moi, je suis plutôt chanceux parce qu'un procès, c'est pas très drôle, mais je souffre pas directement de ma personne. Faut espérer que y ait beaucoup d'alertes qui fonctionnent, et en tout cas, faut les promouvoir, quoi.
Il y en a de plus en plus. C'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus, de plus en plus courant, parce que voilà, une fois que ça commence, on se dit, ceux qui détiennent des informations comme ça peuvent se dire, c'est aussi mon rôle, je peux aussi prendre un rôle dans un changement de société et aussi agir.
J'espère qu'il y en ait de plus en plus, et en tout cas, si la sympathie des médias, de l'opinion susciter des vocations, tant mieux, parce que moi je pense que pour un meilleur fonctionnement des démocraties, il y a besoin d'une meilleure information des citoyens, donc il y a besoin de lanceurs d'alerte. Après, encore une fois, par exemple sur les questions fiscales, si les choses se passaient bien, il n'y aurait pas besoin de lanceurs d'alerte. Je veux dire, c'est l'argument pour le reporting public pays par pays. Donc c'est en gros savoir que font les multinationales dans chaque pays où elles opèrent, le nombre de salariés, le nombre d'impôts qu'elles payent, leur chiffre d'affaires. Et si on avait ces informations-là, il n'y aurait pas besoin de scandales fiscaux pour dire telle multinationale ne paye pas ses impôts. On le saurait, on le verrait dans les documents qui sont publics. Donc voilà, il n'y aurait pas besoin de lanceurs d'alerte. Et c'est tout ce qu'il faut souhaiter. Après, la société étant ce qu'elle est, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements à régler. Donc moi, j'espère qu'il y ait de plus en plus de lanceurs d'alerte.
Et bien là-dessus, on peut se passer un petit morceau de musique. Petite pause dans le débat du village.
J'aurais pu être un grand artiste, un prix Nobel ou un bandit. Naître dans tes bras, voir dans tes rides à quel point j'ai grandi. Tes battements de cœur me font imaginer ton sourire. J'ai livré dans ton monde, main dans la main avec tes souvenirs. Laisse-moi t'appeler maman, c'est pas souvent c'est vrai. Je veux une place au soleil, dans ton jardin secret. Pourquoi t'as pas voulu de moi, tu dois avoir tes raisons. Y'avait sûrement pas assez de place dans notre petite maison. Sèche tes larmes, je suis qu'une graine qui n'a pas pris racine. Je me connais pas et toi maman, dis-moi comment tu m'imagines. J'étais trop pressé, c'était peut-être trop tôt. À mon souvenir, accroche sur le mur un cadre sans photo. Décris-moi la vue de ta chambre, chante pour me réconforter. Parfois je ris en imaginant le nom que j'aurais porté. La mort, la vie, j'y connais rien, quand j'y pense je m'y perds. Je le verrai jamais, mais s'il te plaît maman, fais-moi un petit frère. Retiens juste mon amour, profite, va faire un tour. Tu serais peut-être bien plus triste si j'avais vu le jour. J'aurais peut-être claqué la porte et tout foutu en l'air. Gâché nos vies en un éclair. D'ailleurs, où est mon père? La mer, les fleurs, le soleil, les amis, les années ratées, la tristesse, la peur, je ne connaîtrai jamais. Ça fait quoi de respirer? Parle-moi, je veux pas te voir en pleurs. Tu m'as pas gardé dans ton ventre, mais laisse-moi une place dans ton cœur.
dehors. L'amour fort que nous nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Mon enfant, tu sais que je t'adore et je te demande pardon. Je n'ai ni raison ni tort et je sens encore le cordon. D'abord, maman t'aime, ça faut que tu le saches. Je pense tous les jours à toi en me regardant dans la glace. Tu me ressemblerais, j'entends ton rire dans mes rêves. Et je ressens un grand vide quand le matin se lève. Mais tu ressemblerais à ton père, ce lâche nous a abandonnés. Faut dire qu'à cette époque on était tous un peu paumés. Et ça m'a fait de la peine, son sang coulerait dans tes veines. Et moi je l'aimais comme je t'aime. Je suis jeune, j'ai toujours pas une thune. J'ai toujours pas fini mes études. Et je suis seul, j'étais pas prête à t'accueillir. J'ai du mal à m'en sortir. Et depuis qu'il n'est plus là, c'est encore pire. Entre les cahiers, les couches, le loyer, les cours, je me serais noyé dans mes journées. Broyé par les coups, j'ai dû faire un choix sans toi. Au bord de la falaise, j'ai préféré ne pas être mère qu'en être une mauvaise. Je nous vois dans un parc, la boue sur les chaussures, les éclaboussures. À avoir peur du temps qui passe, tu me tiens par la main, tu me parles avec les yeux. Je n'entends plus personne, je ne sens que nous deux. Et je voulais pas que tu galères, que tu connaisses mes fins de mois. Et puis ton père serait sûrement souvent bien plus absent que toi. On se retrouvera à la prochaine. Je ne t'ai pas donné la vie pour pas que tu aies à vivre la mienne. Maman, comment c'est dehors? L'amour fort que nous nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Mon enfant, tu sais que je t'adore et je te demande pardon. Je n'ai ni raison ni tort et je sens encore le cordon. Maman, comment c'est dehors? L'amour fort que nous nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens encore le cordon. Mon enfant, tu sais que je t'adore et je te demande pardon. Je n'ai ni raison ni tort et je sens encore le cordon. Maman, comment c'est dehors? Mon enfant, tu sais que je t'adore. L'amour fort que nous nous portons. Et je te demande pardon. Je suis ni vivant ni mort. Je n'ai ni raison ni tort. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon. Mais je sens encore le cordon. Et je sens encore le cordon.
Et ils vont bientôt sentir Esperanza, c'était Big Flo et Oli, le cordon, ils seront en concert dans 10 minutes sur la scène côté cour. Et on retourne dans notre débat du village avec sur les lanceurs d'alerte, avec un en studio, Antoinette Tour. Et vous me parliez pendant la pause musicale de la directive secret des affaires qui a été, qui a été lancée cette année. C'est quoi cette directive?
Même pas cette année, c'est un projet très très ancien et ça c'est intéressant. Alors j'invite les gens qui écoutent à regarder la genèse de cette directive. Alors c'est... faut motiver les troupes, donc c'est assez technique et tout ça, mais c'est hyper intéressant parce que quelque part ça illustre le pouvoir des lobbies dans les institutions européennes. Et en fait, c'est un projet qui est parti d'un groupement d'intérêts économiques, en gros une alliance de quelques multinationales, pas très nombreuses, mais qui entre elles représentent quand même le PIB de pays européens qui sont quand même importants. Si on additionne leur chiffre d'affaires. Et voilà, donc c'est vraiment le gros pouvoir économique qui a identifié que là, c'était important de sécuriser les informations des entreprises. Et donc cette directive qui a été adoptée cette année permet à toutes les entreprises de considérer la plupart de leurs informations comme secrètes. Les critères sont vraiment extrêmement faibles, donc n'importe quelle information qui est un tant soit peu protégée est secrète. Et donc ça introduit un long débat avec la société civile et avec certains parlementaires pour savoir, mais voilà, si on protège les informations des entreprises, est-ce que les journalistes vont pouvoir faire leur travail? Est-ce que les lanceurs d'alerte vont pouvoir jouer leur rôle? Et la question de fond aussi, c'est au final, la souveraineté démocratique, les responsables politiques que nous élisons, ils sont là pour encadrer les pratiques, l'économie, pour fixer des règles, les règles du jeu. Et si on ne sait pas ce qui se passe dans les entreprises, si on ne sait pas ce qu'elles font, si on n'a pas d'informations qui viennent vraiment du terrain, on est incapable, on est dans le brouillard et on peut pas exercer ses responsabilités. Donc c'est quand même des enjeux assez, assez lourds. Et donc voilà, il y a eu des débats et certains vont considérer qu'il y a eu des des grandes avancées qui permettraient de préserver le... en tout cas de protéger les lanceurs d'alerte lorsqu'ils révèlent des informations qui seraient protégées par le secret des affaires. Et en fait, donc voilà, il y a un camp progressiste là, au Parlement européen qui a prétendu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le jugement du coup tout récent là, du tribunal du Luxembourg en juin dit exactement le contraire. Il dit, on a connaissance de cette directive. Alors, elle n'est pas encore transposée en droit luxembourgeois, mais interprétons-la quand même. Et ce qu'on nous dit, c'est que non, ça ne permet pas de protéger les lanceurs d'alerte. Donc c'est quand même extrêmement intéressant.
Non, justement, c'est le contraire, puisque on protège plutôt les affaires.
Alors, on protège le secret des affaires, mais voilà, il a été obtenu dans le cadre des débats au Parlement européen notamment, et avec le Conseil européen et la Commission européenne, il a été obtenu une exception, un article qui est censé protéger les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte ont le droit de violer le secret des affaires dans certains cas.
Pourquoi faire une directive sur le secret des affaires alors?
C'est juste un garde-fou. Voilà, globalement, on protège le secret des affaires, mais on préserve quand même un garde-fou pour les cas les plus qui méritent l'attention du public. Et là-dessus, des députés de gauche ont dit ok, c'est pas terrible, on a fait quand même une grosse concession multinationale, mais regardez, on a quand même préservé les intérêts publics. Et là, ce que vient dire le tribunal, c'est que finalement, ce qui a été négocié n'est pas si terrible que ça. Donc là, va falloir être très vigilant sur la manière dont cette directive sera transposée pour éviter qu'à nouveau des tribunaux s'en saisissent pour condamner des lanceurs d'alerte.
Mais donc, de nouveau, là, on le voit, enfin, on parle là depuis deux jours et demi du TTIP, du CETA, du TISA et tout ça. Et on aura un débat demain là-dessus, mais on commence à se dire que finalement, qui a le pouvoir sur le monde et sur les États, ce ne sont plus vraiment les politiques que nous élisons, donc il y a un problème démocratique assez grave. C'est l'économie, en fait, qui tient tout. Et l'économie est détenue par qui? Par des multinationales, finalement.
Oui, alors, faut se méfier, faut pas produire des analyses trop simples, parce qu'une analyse simple est forcément fausse. Mais ceci dit, je partage quand même une grande part de ce que vous venez de dire. Enfin, moi, voilà, pour des sujets que je connais un peu mieux que les autres, la fiscalité, clairement, le cœur du problème, c'est que dans un monde où les capitaux circulent plus librement que les hommes, la base fiscale, les profits taxables, sont en fait une matière qui circule très librement, qu'on peut déplacer avec les prix de transfert. Voilà, c'est très facile de localiser ces profits dans une juridiction qui les taxe très peu. Donc ce contexte global là, de multinationales qui joue avec les chiffres, avec une grande aisance, est complètement inadapté parce que le système de taxation repose sur les États. Il y a une taxation encore nationale et donc qui est complètement impuissante pour taxer des opérations internationales. Ou en tout cas totalement inadaptée, puisque il y a une mise en concurrence des États. Pour préserver sa compétitivité et ses emplois, on va être prêt à faire énormément de concessions aux multinationales. Et c'est pour ça qu'il y a une grande hypocrisie aussi dans l'indignation qui a suivi LuxLeaks, puisque effectivement, il y a quand même c'était un secret de polichinelle, il y avait quand même énormément de politiques qui étaient au courant, au moins dans les grandes lignes, alors qu'ils ne pensaient peut-être pas que ça allait aussi loin, qu'ils ne connaissaient pas les détails. Mais en tout cas, on n'a jamais souhaité bouger sur les sujets-là, parce qu'il y a l'argument de l'emploi qui clôt malheureusement tous les débats. Et donc, quelque part, effectivement, sur ces sujets de fiscalité, on constate que les multinationales ont un pouvoir bien supérieur à celui des États. Il y a des conseillers qui vont avoir une influence assez forte sur la manière dont on va taxer les profits. Et voilà, il y a des grands cabinets de conseil en fiscalité qui vont aller accompagner des petites juridictions pour leur dire, si vous prenez telle mesure, vous allez attirer des investissements étrangers. Et là-dessus, les États sont assez impuissants. Et alors, le parallèle avec le TTIP, c'est que... Le TTIP, au final, il va avant tout profiter aux multinationales. En tout cas, ces grandes entreprises qui vont en profiter, qui défendent ce texte le plus ardemment, parce que voilà, c'est elles qui sont vraiment les gagnants du commerce mondial. Et donc, quelque part, on renforce encore le pouvoir de ces pouvoirs économiques supranationaux face auxquels les démocraties nationales sont un peu démunies. Et c'est pour ça que y a besoin de plus d'Europe, il y a besoin de plus de régulation intergouvernementale, si ce n'est mondiale. Après, c'est des processus longs, difficiles, et c'est pour ça que, en parallèle, il est peut-être assez intelligent de développer des alternatives.
Des alternatives, en effet, parce que là, oui, on parle de... Il faudrait réguler, et là, on est en pleine dérégulation totale, mais de tout, puisque en fait, qu'est-ce qu'on cherche avec ces traités de libre-échange? Qu'est-ce que cherche clairement l'OMC? C'est justement de diminuer toutes les barrières administratives, douanières, pour que tout circule, mais tellement mieux, sauf les hommes. Donc les lanceurs d'alerte ont encore des beaux jours devant eux, finalement. Enfin, oui,
alors là, c'était
des beaux jours, c'est pas spécialement
beau
des beaux jours.
Pour les lanceurs d'alerte, mais effectivement, la logique des lanceurs d'alerte, c'est informer l'opinion pour atteindre un niveau d'indignation que les politiques ne peuvent plus ignorer et qui les pousse à agir. Et voilà, il y a une telle défiance envers les institutions, la représentation démocratique, que il y a besoin de lanceurs d'alerte parce que les institutions sont globalement impuissantes, et il y a besoin d'individus qui de temps en temps s'élèvent contre des pratiques scandaleuses pour faire bouger les choses.
Alors évidemment, ça met à mal les multinationales, mais les États eux-mêmes ne sont pas super fiers non plus, en fait. Ils sont quand même mis à mal également dans toute cette histoire.
Quelque part, les alertes fiscales ont plutôt tendance à servir les intérêts au moins de certains États. Par exemple, les cas de HSBC, d'UBS ou d'autres, même de Rudolf Elmer, ça a plutôt tendance à inciter les États à protéger les lanceurs d'alerte, parce que là, ils y voient l'intérêt financier. Avec ces alertes-là, c'est des alertes rentables qui permettent de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc du coup, ça a tendance à protéger les lanceurs d'alerte. Après, malheureusement, c'est pas une protection encore... c'est souvent encore assez sectoriel, et effectivement, dès qu'il est question d'intérêt supérieur, on connaît tous l'histoire d'Edward Snowden. Effectivement, il y a beaucoup plus de réticence à lui accorder l'asile, par exemple.
Oui, ça va, vous n'êtes pas au point d'Edward Snowden.
Non, mais ça va.
Ça va. Vous allez profiter du festival maintenant?
Oui, avec grand plaisir.
Il y a quelque chose à aller voir ce soir qui vous attire plus particulièrement?
Je ne connais pas le programme en détail, mais du coup, je vais renforcer...
Il y a Big Flo et Oli.
Je vais renforcer les préjugés boboïdes. Non, mais il y a Manu Chao, c'est quand même la tête d'affiche. Mais
carrément.
Après, il y a certainement plein d'autres choses sur la scène découverte à voir ce soir.
À découvrir, et puis demain aussi. Antoine Deltour, merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Radio Esperanza. On vous souhaite un très bon festival.
Merci.
Et peut-être à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.